gauche, le populisme, ce sont les extrêmes. Ça fait partie de l'extrême, le populisme.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un 551e épisode de Zoom Zoom Zen. Ça devient les feux de l'amour, ce truc. Moi-même, je serais incapable de vous dire qui a couché avec qui dans l'équipe, mais on reste concentré sur notre mission. Chaque après-midi, vous éclairez sur un mot, un concept dans l'air du temps. Et autant on vous a déjà arnaqué, parce que, ok, on peut l'avouer maintenant, essaim sismique et ninja, c'était pas des masses dans l'air du temps. Il y a eu filouterie. Aujourd'hui, on est pile dans le cahier des charges, puisqu'on va zoomer avec un éminent avocat du Conseil d'État sur une notion dont vous entendez parler à longueur de journée, à tel point que son sens se dilue parfois. Zoom sur le populisme. Cette approche politique qui consiste à opposer le peuple aux élites, qu'elles soient politiques, économiques, médiatiques, et à dire en gros au peuple, vous êtes mal représenté par des dirigeants déconnectés de vos problèmes qui ne gèrent pas le pays dans votre intérêt, moi je vais vous redonner le pouvoir. Comment ? À travers moi bien sûr, car seul moi c'est ce qui est bon pour vous, les autres c'est des nullos. C'est un peu schématique, voire caricatural, mais on verra qu'il y a un peu de ça dans l'essence du populisme. Alors à quoi ressemble le populisme en France en 2025 ? Quelle différence entre le populisme de droite et le populisme de gauche, quelle différence aussi pour nous citoyens si l'un ou l'autre devait accéder un jour au pouvoir. Enfin, le populisme est-il forcément un autoritarisme? Ici à Zoom Zoom Zen, on a malheureusement la réponse à cette question, oui. Car souvenons-nous de nos débuts en 2022. Cyril Lacarrière, fraîchement débarqué d'Europe 1 et soucieux de faire oublier ses liens avec Vincent Bolloré, pour mieux s'intégrer dans une radio progressiste, se présentait comme un manager tolérant et ouvert, partisan d'une cogestion. Venez, je crée un groupe WhatsApp dans lequel on pourra échanger facilement, où la parole sera libre, où personne ne sera jugé, avait lancé Cyril. 3 ans plus tard, l'andropause est passée par là, et désormais, à la moindre blague, à la moindre réflexion un tant soit peu subversive, comme « t'es vraiment trop con Cyril », émoji bonhomme mort de rire, la sanction tombe. Cyril Lacarrière vous a supprimé du groupe. À part moi, quand même, il n'oublie pas qu'il y a encore une personne au-dessus de lui dans l'organigramme de Zoom Zoom Zen.
C'est vrai.
Personne dans l'équipe n'a échappé à ce bannissement, au moins une fois. On le sait aujourd'hui, Cyril, c'est le caractère de Jean-Luc Mélenchon et les idées de Bruno Retailleau.
Oula.
Un cocktail terrifiant. Terrifiant d'autant que, selon l'humeur de Papy Grognon, le bannissement du groupe WhatsApp peut durer 1 heure, 2 jours, voire, pour les cas de trahison les plus graves, pour toujours. L'occasion d'embrasser Valentin. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Noël.
Je n'ai jamais parlé de cogestion.
Ah,
je suis contre ce genre de choses.
C'est vrai, vous êtes le seul à dire.
Vous êtes antidémocratique à la base.
Oui. C'est vrai.
Bonjour Patrice Pinozzi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Patrice, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, défenseur des libertés fondamentales. Vous venez de sortir un livre indispensable dans cette période troublée, Menace sur l'état de droit, comment préserver nos démocraties, chez Alary Éditions. Vous imaginez les conséquences pour les citoyens si le populisme devait accéder un jour au pouvoir en France. Que se passerait-il? C'est ce que vous allez nous expliquer pendant 1 heure. Juste le temps de vous présenter ceux qui, à la suite de notre émission l'autre jour, ont contacté Olivier Perroux et Charlotte Belaïche pour savoir si des fois ils voudraient pas écrire un livre enquête sur Cyril Lacarrière. On a du matos, ont-ils précisé. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour à tous. Et ils nous ont répondu. La suite au prochain épisode.
On a du matos, on va le faire tomber, Cyril Lacarrière. Il va retourner d'où il vient, sur Radio Seine-et-Marne.
C'est très bien, Radio Seine-et-Marne. Manon, chaque après-midi, vous présentez l'autre personne à suivre sur notre sujet.
Et aujourd'hui, celui qui incarne le populisme en Italie avec son parti, le Mouvement 5 étoiles, une sorte de Coluche un peu plus problématique quand même.
Un petit peu moins drôle peut-être. Face à vous, Patrice, vous tombez à pic, il cherche un avocat. Alors, plutôt un avocat fiscaliste, car c'est avec Bercy qu'il a maille à partir, mais il déteste tellement payer des impôts qu'il est prêt à saisir le Conseil d'État, donc il prendra votre carte quand même. En attendant, Quentin, vous êtes allé parler populisme avec les passants.
Oui, c'est une notion floue, parfois utilisée à toutes les sauces. Le populisme, c'est quoi? Qui est populiste en France? Vos réponses dans la prochaine demi-heure pour ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, nous jouerons avec les populistes de tout poil, dont le point commun, une fois au pouvoir, est clairement l'excentricité. Un quiz à l'issue duquel on devrait découvrir que les leaders populistes n'aiment qu'une seule chose, plus que le peuple, eux-mêmes. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Marine Leonardi, qui adore les sujets politiques parce que c'est très facile de les relier à des blagues sur la Moon Cup. Enfin, après 17h, on se penchera sur le scandale de l'eau. Qu'elle soit minérale ou du robinet, elle est polluée. C'est en tout cas la conclusion du livre enquête que vient nous présenter le journaliste Fabrice Nicolino. Mais d'abord, Patrice Pinozzi, est-ce que vraiment la France est aujourd'hui menacée par une vague populiste, comme on a pu le voir en Italie ou plus récemment aux États-Unis?
Alors en tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai écrit. Hein. C'est-à-dire que moi je pars d'un constat de juriste, hein, pas de politique. Et ce constat, c'est la montée du populisme d'une façon générale, d'abord en Europe, avec un certain nombre de démocraties qui ont d'ores et déjà été conquises par le populisme, qu'il s'agisse de la Hongrie, qu'il s'agisse de la Pologne qui essaye tant bien que mal de s'en sortir, potentiellement de l'Italie qui est un peu en train de basculer. Et puis surtout, il y a cet exemple absolument flagrant des États-Unis qu'on vit tous en ce moment avec cette démocratie qu'on pensait tous très établie qui d'un seul coup est complètement dévitalisée, un peu mise à bas par un leader qui a toutes les caractéristiques du leader populiste en la personne de Donald Trump. Donc oui, ce risque il est là, il est là autour de nous et il est là chez nous en fait, hein, et il existe avec un certain nombre de partis qui selon moi se définissent particulièrement comme des populistes, qu'il s'agisse du RN à l'extrême droite ou à gauche de LFI, qui sont tous les deux des partis qui rassemblent des critères du populisme.
On va développer tout à l'heure, mais je vous posais la question de savoir s'il n'y a pas une populisation du terme populiste, c'est-à-dire que le populisme, on a l'impression qu'il s'étend à plus de partis qu'avant. On a l'impression que chacun, même peut-être au centre, on verra, il y a des arguments populistes qui émergent.
Le populisme, vous l'avez décrit de façon très claire. Hein. Le populisme, c'est le principe de l'instrumentalisation par des hommes politiques de la volonté supposée du peuple contre des élites. Et les élites, bah, ça peut être soit des élites intellectuelles ou administratives, ça c'est classique du populisme de droite. Ça peut être des élites financières, c'est classique du populisme de gauche. Et il y a effectivement ce que je décris aussi comme une forme de troisième voie du populisme, qui est une forme de populisme d'opportunisme ou populisme de lâcheté, qui est le populisme du centre, c'est un populisme qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a déjà vu sous les gouvernements d'Emmanuel Macron, avec une tendance de certains hommes politiques qui appartiennent pourtant à des majorités républicaines, eh ben, d'être perméables au discours de l'extrême droite, de l'extrême gauche, et de reprendre dans l'espace public des propos qui sont classiquement des propos des extrêmes.
Gérald Darmanin, Gabriel Attal, si vous nous écoutez, gros bisous. Pour remonter à l'essence du populisme, il y a évidemment Cyril Lacarrière, notre maître à penser. Dans Zoom Zen. Cyril, racontez-nous le populisme, d'où ça sort?
Du latin populos, qui veut dire peuple. Historiquement, le populisme, c'est en Russie qu'il trouve sa source, un mouvement politique de la fin du 19e qui s'oppose au tsarisme, une résistance qui s'appuie sur le peuple, et c'est par lui que les populistes espèrent transformer la société. Politiquement, le populisme a pas mal changé depuis le 14e siècle, et son sens également. Aujourd'hui, quand on utilise le terme populisme, c'est souvent dans un sens péjoratif. Il sert à disqualifier les opposants politiques, ceux qu'on accuse d'être des freins à une certaine idée de l'évolution de la société. Populiste par-ci, populiste par-là, c'est devenu une insulte qu'on s'envoie au visage. Et c'est comme si se référer au peuple était devenu un problème ou le sommet de la démagogie.
Pourtant, ça partait de véritables revendications.
Oui, nouveau retour en arrière, à l'Ouest, ce coup-ci, en 1892, à Saint-Louis, aux États-Unis, des fermiers lancent le People's Party, le Parti du Peuple, un mouvement issu d'une révolte des paysans du sud du pays. Avec ce parti, ils veulent protester contre la baisse des prix agricoles et contre le taux des crédits trop élevé. En France, le populisme trouve son origine dans le boulangisme. Chez nous, rien à voir avec les paysans. Le boulangisme est en fait un mouvement plutôt urbain, petit bourgeois et ouvrier. On est alors à la fin du 19e siècle. Le boulangisme, on le doit à Georges Boulanger, un ancien militaire devenu ministre de la guerre. Mais le populisme en France, on l'assimile le plus souvent à Pierre Poujade, un homme politique à la tête d'un mouvement de défense des commerçants et des artisans. S'il a eu une carrière politique éclair, Poujade a été le début de quelque chose. Le poujadisme, évidemment, son nom est quelque chose, et c'est ce dont on va parler notamment durant une heure.
Merci Cyril. Patrice Pinozzi, si on suit les explications de Cyril, le populisme, c'est avant tout, à la base, une lutte du peuple contre les élites. Bon, ça, c'est juste la définition stricto sensu, mais est-ce que, dès le départ, il n'y a pas déjà en germe, dans le terme même de populisme, cette idée que le peuple est en fait juste un paravent, un trompe-l'œil, pour qu'un leader arrive au pouvoir en se prévalant du peuple?
Le problème, c'est que le terme de populisme lui-même, dont on vient de parler, il a été largement galvaudé, et on ne peut pas s'en tenir uniquement, en fait, pour analyser la situation contemporaine, à se jeter à la figure le terme de populisme. Il y a d'autres éléments qui sont à prendre en considération et qui me semblent déterminants. À cette question de populisme, il faut lier deux autres notions, à mon avis, qui sont celles dont je parle, c'est-à-dire la question de l'état de droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le populisme se définit comme étant un parti qui cherche à remettre en cause l'état de droit, et il faudra qu'on parle de ce qu'est l'état de droit. Et aujourd'hui, la version contemporaine du populisme, elle est liée à un autre terme qui est celui de démocratie illibérale. C'est-à-dire que c'est la démocratie illibérale, c'est ce qui existe aujourd'hui en Hongrie, c'est ce qui existe en ce moment aux États-Unis. Mmh. C'est une forme de régime qui s'apparente à la démocratie, mais où en réalité les tenants du pouvoir cherchent à d'abord le conserver en portant atteinte aux libertés de l'ensemble des participants. Et ce qui détermine véritablement le populisme, c'est-à-dire que ce qui va être le critère pour déterminer le populisme, c'est que, vous l'avez dit en fait, hein, c'est exactement comme le groupe WhatsApp, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que, en réalité, à partir du moment où vous êtes administrateur dans votre société populiste, c'est vous qui décidez, en fait. Et c'est votre volonté qui fait la loi. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que le populisme, c'est le refus de la contradiction. Or, une démocratie, par principe, c'est un lieu où la contradiction est possible. C'est un lieu où il peut y avoir des oppositions. Or, le populiste considère qu'à partir du moment où lui, il est élu, à partir du moment où lui, il est administrateur, il a la possibilité de décider de tout. Et c'est donc une tyrannie, en réalité, de la majorité qui a été élue. Et c'est bien ça, le véritable critère, aujourd'hui, du populisme.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il est habitué aux ors du Conseil d'État, alors forcément ça a dû lui faire tout drôle quand il a découvert notre espace détente tout à l'heure avec la petite souris qui se balade. L'avocat Patrice Spinozzi est avec nous pour son livre « Menace sur l'état de droit, comment préserver nos démocraties » qui vient de paraître chez Alary Éditions. On en parlait tout à l'heure, on a fait ici même une émission sur la notion d'état de droit. Comment les populistes s'y prennent pour détruire l'état de droit? Ils ne peuvent pas le faire, j'imagine, frontalement dans la plupart des états démocratiques à la base. Alors ils y vont par petites touches, comment ils procèdent?
Alors, il y a une mécanique, hein. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable internationale, en fait, des populistes, et ils se refilent des tuyaux, hein. C'est-à-dire que Viktor Orban, par exemple, en Hongrie, il a envoyé des émissaires aux États-Unis.
Pour voir comment ça se passait, quoi.
Ben non, pour leur donner des trucs.
Alors, pour donner des trucs.
Pour lui donner des trucs, en fait. Il a été voir The Heritage Foundation, là, le projet 2025, et qui a été un des think tanks de la campagne de Donald Trump, et ils lui ont dit, voilà, enfin, si tu veux installer une démocratie illibérale, en fait, il faut que tu dévitalises un certain nombre de contre-pouvoirs. Il faut en particulier attaquer l'indépendance de la justice. Et voilà comment on peut faire pour attaquer l'indépendance de la justice. Il faut aussi s'attaquer aux médias. Et donc, comment on peut faire pour limiter l'opposition des médias. Donc, c'est ça, les c'est deux
une
grands...
Une sorte de guide pour les nuls.
Ouais, enfin, c'est un guide des populistes, en fait, avec des mécaniques. En fait, c'est très juridique, c'est pour ça que moi, mon livre est un livre essentiellement qui résume comment juridiquement on est susceptible de pouvoir porter atteinte à l'état de droit et surtout à ses garants. Et en fait, pour ça, bah, il faut ne plus avoir de contre-pouvoir. On l'a dit tout à l'heure, hein, le principe du populiste, c'est qu'il n'aime pas qu'on lui dise qu'il a tort. Et donc, bah, la démocratie, le principe, c'est qu'il y a des gens qui vous disent que vous avez tort. Ça peut être des juges, ça peut être des journalistes. Donc, quand vous êtes, vous, le leader, vous dites, bah, en fait, les juges, en fait, à partir du moment où ils disent que j'ai tort, eh ben, ils ne sont pas légitimes parce qu'ils vont à l'encontre de ce que moi, j'ai décidé.
Et moi, je suis le peuple.
Je suis le peuple. Donc, en fait, les juges, c'est eux qui ont tort. Et donc, on se retrouve dans des situations comme il existe aujourd'hui aux États-Unis, avec des décisions qui sont rendues par des juges fédéraux, voire par la Cour suprême des États-Unis, et l'administration Trump qui dit « je m'en fiche, de toutes les façons, moi, j'exécuterai pas les décisions des juges ».
Oui, mais il s'appuie sur le peuple alors que l'État de droit protège le peuple.
Oui.
Donc c'est bizarre un petit peu.
Mais en fait, non, parce que c'est précisément la rhétorique des populistes. C'est-à-dire que la rhétorique des populistes, c'est dire mais de toutes les façons, je ne peux pas mal faire, puisque j'ai été élu par le peuple, et donc le peuple est d'accord avec moi. Bon, mais le problème, c'est que, d'abord, on voit bien que la démarche, qui est la démarche des gouvernements populistes, elle est toujours globalement la même. C'est de petit à petit, de priver de droits, ou de limiter en tout cas les droits, de ceux qui sont les minoritaires. Alors, les minoritaires, les premiers minoritaires qui vont être concernés, c'est évidemment les plus évidents, c'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, dans le débat public, font le plus débat, à savoir les immigrés, et les délinquants. Donc ça, historiquement, dès qu'il y a du populisme, on s'attaque à ces populations-là. Et puis, après, on attaque tous les minoritaires. C'est-à-dire que, très rapidement, dans les populismes européens, il y a une mise en cause des minorités sexuelles. On peut pas dire que les personnes qui sont homosexuelles, par exemple, ou LGBT, sont bien traitées en Hongrie, ou en Pologne. Et de la même manière...
Ni aux États-Unis aujourd'hui.
Et de la même manière, il y a une mise en cause des opposants politiques. très vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous opposez, vous êtes dans la minorité politique, eh ben vous allez être surveillé, vous allez être potentiellement réprimé, et ça vaut évidemment de la même manière pour toutes les personnes qui sont indépendantes, à savoir les médias, comme vous, la justice, comme moi, et nous sommes les premières cibles des gouvernements illibéraux ou populistes.
Comment on peut contrer la montée du populisme, et je dirais même l'arrivée au pouvoir? Est-ce que le Conseil constitutionnel, par exemple, peut jouer un rôle majeur dans ces cas-là?
Oui, alors, il y a une chose qui me semble très importante à comprendre, c'est-à-dire que il n'y a pas de fatalité. Hein. Moi, mon livre, c'est un livre qui dit il y a une menace aujourd'hui sur l'état de droit, il y a une menace populiste en France. Moi, c'est une forme de dystopie, en fait. Je dis, voilà ce qui est susceptible de pouvoir se passer pour nous tous si demain, disons, le RN ou LFI arrive au pouvoir, mais pas que, en fait, toutes les personnes qui se revendiquent, grosso modo, de cette idéologie. Et ce qui me semble important, c'est que le but de ce livre, c'est que les gens en prennent conscience. Et donc, il n'y a pas de fatalité. C'est ça qui est quand même très très important. C'est qu'aujourd'hui, il y a une menace, mais elle n'est absolument pas acquise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? D'abord, il faut avoir conscience du risque et donc voter de façon efficace, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut pousser les politiques à raffermir notre démocratie. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. D'abord, il y a des choses qu'il faut arrêter de faire. Il faut arrêter de critiquer la justice. Il faut arrêter de considérer que dès qu'il y a une décision qui est rendue, on peut soit la tourner en dérision, soit refuser d'en faire application. Et puis, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut mieux garantir l'état de droit. Donc, il faut mieux garantir l'indépendance de la presse. Il faut mieux garantir l'indépendance des juridictions. Je ne vous ai pas répondu sur la question du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, bien sûr, c'est un des premiers garants, puisque c'est lui qui a vocation à contrôler la conformité à la Constitution et donc à l'ensemble des libertés fondamentales, des lois qui seraient votées par un Parlement populiste. Le risque qu'il y a, c'est que le Conseil constitutionnel il puisse être noyauté de l'intérieur par des nominations qui seraient prises par le nouveau président de la République, le nouveau président de l'Assemblée nationale, et que de l'intérieur, petit à petit, y ait des gens qui soient acquises à la cause du régime qui soit nommé.
Le jour où le peuple reprendra vraiment le pouvoir dans ce pays, il marchera sur l'Élysée. Mais juste après, il déboulera ici à Radio France pour choper Quentin, lui. En tête du cortège révolutionnaire, un certain Alan, ancien conducteur de car et shérif sur TikTok, brandira au bout d'une pique la tête de Quentin, pendant que les deux pâtissiers qui avaient confectionné une maison blanche en chocolat hurleront « Bien fait, bien fait !» Je ne vous le souhaite pas, Quentin.
Chocolat blanc.
Je ne vous le souhaite pas, Quentin, mais à force de vous moquer des gens, c'est ce qui vous pend au nez. L'histoire tranchera. Pour l'instant, parlez-nous de votre dernier micro-trottoir. C'est dans la rue, finalement, que le mot populisme prend tout son sens.
C'est justement ce que j'ai voulu demander aux gens. Le populisme, c'est quoi pour vous? Je commence avec ce monsieur qui marche d'un pas pressé, chemise, lunettes et cheveux blancs.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Jean-Marie. Je suis responsable des ressources humaines.
Vous avez rendez-vous?
Là, j'ai rendez-vous, oui, il faut que j'aille courir pour un cadeau pour la fête des mères.
C'est pas en avance, Jean-Marie. Jean-Marie découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Populisme. Déjà, on a la base, on a populaire. Populisme, une action qui serait en faveur du peuple. Moi, je verrais ça comme ça. Je le maîtrise pas, je vous avoue, celui-là.
C'est pas nul comme définition, mais souvent on dit des politiques qui sont populistes.
Alors ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut, ça dépend comment on va l'interpréter. Pour moi, c'est une qualité parce que faire partie du peuple, c'est une qualité, et comprendre le peuple, c'est une qualité. Après, s'en servir, ça n'est pas forcément une.
Alors qui incarne ou a incarné le populisme positif pour lui?
Pas forcément dans la sphère politique. Moi, je pense à un artiste qui était très populiste qui s'appelait Higelin, Jacques Higelin.
Higelin, il est populaire ou populiste?
Populiste, dans le bon sens du terme. Son amour du genre, sa facilité à communiquer avec eux, hors la sphère concert, puisque moi je l'ai connu un petit peu à part, c'est quelqu'un qui a cette âme du peuple, qui pense, qui communique, et on le voit très bien dans sa façon qu'il avait de communiquer en concert, il était vraiment avec les gens. Tombé du
ciel. Alors, est-ce qu'Higelin aurait validé l'appellation en 2025? Sûr, c'est quand même pas toujours un compliment. Corinne traverse la rue, je lui demande sa définition du populisme.
C'est Trump, Poutine, le populisme, c'est la voie au fascisme.
C'est marrant aussi comme ce mot cristallise les peurs. À partir de quand un discours populaire devient-il dangereux? C'est à ça que je pense en croisant ma prochaine rencontre, qui trimballe sous un parapluie, un sac blanc, comme un précieux. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes en train de bosser, vous?
Je suis en train de bosser.
Qu'est-ce que vous faites?
Vous voyez, je vais chez un fournisseur, je prends de la marchandise et je vais la livrer.
C'est quelle marchandise, ça ?
Un costume.
Un costume, pour un certain monsieur François F, certainement. Mais ce n'est pas le sujet. On reprend sur le...
Le populisme, ce sont les extrêmes. C'est-à-dire que celui qui est en haut va écraser celui qui est en bas.
Mais c'est pas l'inverse, le populisme ? C'est pas celui qui est en bas qui va critiquer les élites d'en haut ? Aussi ?
Ça peut être dans tous les sens.
C'est compliqué, hein ?
Très compliqué.
Qui l'incarne, en France ?
Les filles. Ils l'incarnent par le clientélisme. Ils ont besoin du clientélisme. Même Xavier Bertrand, à un moment, l'a fait à Lille. C'est-à-dire qu'on veut plaire à des gens pour avoir les votes, donc on va dans leur sens.
Populisme, clientélisme, finalement l'élu serait plus intéressé que sincère. Ma dernière rencontre, cet homme, la cinquantaine, barbe de quelques jours, il découvre le mot qui nous intéresse aujourd'hui.
Populisme. Le populisme, c'est le pervers narcissique assimilé à la politique. Tu fais de la politique pour toi et non pas pour les autres. C'est une perversion, le populisme, dans un sens.
Une perversion. Le populisme, concrètement pour lui, en politique, c'est la facilité.
Et c'est de brasser de l'évidence, en fait, le populisme. Gérer un problème, moi j'ai une entreprise, tu ne gères pas avec des évidences. Il faut trouver des vraies solutions. Et ça, c'est compliqué. Le populiste, il ne s'attarde pas sur les vraies solutions. Il va commenter les décisions des autres en disant qu'elles ne sont pas bonnes. Mais il va proposer quoi en échange ? Il va proposer quelque chose qui fait beau, mais qui n'est pas applicable, parce que de toute façon, il sait pertinemment qu'il ne sera jamais au pouvoir.
Et pourtant, certains populistes, comme il dit, sont arrivés au pouvoir dans le monde, non ?
Mais quand un populiste arrive au pouvoir, bah, tu te rends compte qu'ils sont confrontés, comme Meloni en Italie, comme ils sont confrontés à un mur. Regarde Trump, aujourd'hui, il est confronté à un mur. Ses idées ne peuvent pas s'appliquer. Donc le populiste, c'est un homme qui est très nécessaire pour sans doute brasser et que les gens se remettent en cause aussi, parce que il y a...
Oui, j'allais dire, le populiste, au moins il a cette contradiction peut-être
oui,
au
voilà,
pouvoir en place.
Oui, voilà, c'est une vraie contradiction qui permet aux autres aussi peut-être d'évoluer, mais lui au pouvoir, ce n'est pas applicable. Le populisme appliqué, c'est une dictature.
Pour terminer, je lui parle de la France, il me parle de Jean-Luc Mélenchon, mais pas que.
Macron, dans son esprit, est un peu populiste. Bah, le fameux truc des gilets jaunes, en essayant de retourner la situation pour lui, c'est un peu une...
Ah oui, le grand débat national.
Tout ça, c'est une forme de populisme aussi, c'est faire semblant que tu donnes la parole au peuple, en fait. Mais enfin, le peuple, il n'y a pas une définition du peuple, on parle pas tous de la même voix. Oui, le populisme, c'est quand même quelque chose qui, de toute manière, dans l'attitude de Macron sur cette période-là, et sur celle de Mélenchon, et sur d'autres encore, de temps en temps, tu t'aperçois qu'en fait, c'est toujours auto-centré.
Le populisme, c'est un mot valise, un peu fourre-tout. Pour les uns, c'est la voix du peuple qu'on n'écoute plus. Pour les autres, une sirène qui ment, juste assez pour séduire. Mais à force d'être tout, il ne dit plus rien. Et dans la rue, ce flou prend forme. Chacun y voit le miroir de ses peurs, de ses espoirs ou de ses colères.
Merci Quentin. Patrice Spinozzi est toujours avec nous pour son livre « Menace sur l'état de droit ». Ce mot de populisme, c'est vrai qu'il est piégeux. Est-ce que, alors on a vu qu'il y a un populisme de droite, un populisme de gauche, plus complexe, c'est le populisme du centre, effectivement. Est-ce que ce monsieur a raison quand il dit que le grand débat national organisé par Emmanuel Macron après les Gilets jaunes, c'est une manière de faire quelque chose de populiste aussi finalement, ou là on mélange tout ?
Ben. En fait, si vous voulez, moi, je trouve ça très intéressant, hein, ce qu'on dit ces gens. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même très surprenant de voir, quand on interroge des personnes, qu'ils ont quand même d'abord des idées qui sont des idées assez différentes les uns des autres, mais globalement, qui sont toutes justes. Hein. C'est-à-dire que tout le monde touche à quelque chose de la réalité du populisme. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire que les gens ont bien conscience de la nature du risque. Et on voit bien que derrière le terme populiste, il y a un côté effectivement qui est péjoratif, puisqu'on voit bien qu'il y a une instrumentalisation, en fait, de la part de ceux qui sont au pouvoir. Et dans ce sens, ce que vous évoquez, c'est-à-dire le grand débat, oui, il y a une démarche qui est une démarche un peu populiste, puisque au fond, il y a une tentative de parler au nom du peuple, alors même qu'en réalité, il n'y a pas de prise en considération de ce qui est exprimé par le peuple. Donc, c'est une fausse démarche de recherche démocratique. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que au cœur du populisme, il y a quand même ce risque réel de décrédibiliser l'ensemble de l'appareil qui tient la structure de l'État. Et c'est ça, en fait, qui est évidemment dangereux. C'est bien ça où il y a une menace sur l'État de droit. L'État de droit, c'est quoi ? On l'a évoqué. L'État de droit, c'est l'acceptation des gouvernants de se soumettre au droit. C'est cette idée sur laquelle la démocratie, c'est évidemment la majorité, mais pas que. C'est on vote, mais faut-il encore qu'on soit d'accord sur le régime dans lequel on est en train de voter. Donc il faut qu'on soit d'accord sur un certain nombre de grandes libertés fondamentales, liberté d'aller et de venir, liberté d'expression, droit à un procès équitable. Si on perd cette nature-là, on perd ce qu'est la démocratie, et si vous votez contre ce qu'est la démocratie, eh ben, on glisse vers autre chose.
Du fascisme. Parce que on
alors,
a dit, le
là,
populisme,
encore une fois,
c'est du fascisme.
Mais je pense qu'il faut arrêter de s'arrêter, enfin, il faut arrêter de se bloquer uniquement sur des mots, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire
genre
qu'on
prend
sera
ce qu'on
plus...
a dit dans la rue. Hein.
Oui, oui, tout à fait, mais on ne sera plus dans un régime purement démocratique. Ce qui est intéressant avec la démocratie illibérale, hein, dont on parle, qui est la démocratie populiste, c'est qu'elle continue à se soumettre à l'élection. C'est-à-dire que, on l'a vu d'ailleurs, Trump, lors de son premier mandat, il a été battu, il est parti, en étant très mécontent, il y a une tentative de coup d'État, mais il est quand même parti. Bolsonaro, ça a été la même chose. Donc, il y a quand même, dans cette notion de populisme contemporain et de démocratie illibérale, il y a un besoin de légitimité qui fait qu'on continue à se présenter à des élections. Mais c'est des élections qui sont de plus en plus biaisées, puisqu'il y a de plus en plus de menaces sur les contre-pouvoirs, en particulier sur la presse ou sur les opposants politiques.
France Inter.
À l'heure où la direction de France Inter appelle tous les services à effectuer des économies substantielles, il a commandé aux services généraux 12 tonnes de marbre de Carrare pour, je le cite, « édifier dans l'atrium de Radio France une statue équestre à sa gloire ». Depuis nos dernières audiences mirifiques, Cyril Lacarrière a-t-il complètement pété les plombs ? Oui. Mais il n'est pas le seul, comme vous allez à présent le découvrir dans le Zoom Zoom Test.
C'est sûr qu'il soit très adroit à cheval.
Oui.
Non, hein ? Peut-être même qu'il sera un peu gauche. Et ça serait d'ailleurs la seule fois de sa vie qu'il serait gauche. Un quiz consacré aujourd'hui à l'autre facette classique du populisme, l'égocentrisme de ceux qui le portent. Tous ceux qui, dans cette équipe, travaillent sous l'autorité de Cyril, le savent, être convaincus d'avoir raison vous pousse parfois à certaines excentricités, comme ce tatouage géant qui recouvre l'intégralité du dos de notre rédacteur en chef et qui représente Jacques Chirac faisant le V de la victoire depuis la terrasse du port de Brégançon. Tatouage réalisé dans une université d'été du RPR, quand la France était encore la France, nous expliquait Cyril. Bref, dans la même veine, d'après vous, quelle personnalité politique italienne s'est fait tatouer le nom de son parti tellement elle y croit ? Est-ce que c'est Silvio Berlusconi ? Est-ce que c'est Matteo Salvini, Quentin ? Ou est-ce que c'est Giorgia Meloni ?
B.
Ah oui, bah oui.
À force de rire, vous avez été à la ramasse sur la question. Ah oui, mais c'est une mauvaise réponse. Bonne réponse de Manon, qui est donc à moins 1. Grâce à cette bonne réponse, oui. Matteo Salvini, emblème du populisme italien, actuel vice-président du Conseil, n'aurait pas un, mais trois tatouages de son parti, la Ligue, ainsi qu'une petite croix celtique bien chicose. En revanche, selon nos informations, il aurait récemment fait effacer son tatouage.
Tu nous manques, Hitler.
Après avoir rompu avec Manon M, sa fiancée française, qu'il appelait sa dolce ragazza. Mais attention, dans la famille des populistes givrés, il y a bien plus excentrique que Matteo Salvini, comme je le dirai probablement dans 2-3 ans, voire dès cet été. Vite, allons en Turquie. Pays célèbre pour ses miracles capillaires à tarifs abordables, même si le miracle ne marche pas à tous les coups, on a tous en tête ici l'échec de la grève de bouc de Quentin. Pays surtout dirigé d'une main de fer par un populiste qui ne fait même plus semblant d'avoir quelque chose à faire du peuple, le bougon Recep Tayyip Erdogan. Bougon est évidemment assez casanier. Recep adore être chez lui, du coup, son chez lui doit être confortable. D'après vous, que s'est-il donc acheté avec l'argent du contribuable ? La moitié des terres cultivables de Turquie, parce qu'il est très jardinage ? Une piscine grande comme le Stade de France, parce qu'il adore le pédalo. Ah. Ou un palais qui fait 4 fois Versailles, parce que Versailles c'est mignon, mais c'est un peu petit.
C'est.
Bref, je vais dire autre chose.
N'essayez pas de filouter. Bonne réponse de Manon qui revient à 0 points. Très belle performance, Manon. Vous savez, être populiste, c'est fatigant. Traquer les journalistes, superviser les interrogatoires des opposants politiques, expliquer votre vision des droits de l'homme aux ennemis du peuple, tout ça est éprouvant. Alors le soir venu, c'est normal, Recep Tayyip aime à se délasser dans le confort ouaté de son joli palais de 300 000 mètres carrés et 1000 pièces. Une bicoque à 500 millions d'euros, 50 millions de frais d'entretien annuels, sachant qu'il a évidemment aussi, évidemment, pour s'oxygéner, une résidence secondaire de 300 chambres à la campagne et que l'inflation en Turquie frôle les 45%. Un sans-faute démocratique pour ce sacré Tayyip. Il y a pourtant plus fort que la Turquie en matière de populisme décomplexé. Il y a le Turkménistan. Vous aurez certainement reconnu ici l'hymne national turkmène. Gardez votre main sur le cœur, car nous partons à la rencontre d'un des leaders populistes les plus extravagants au monde. Non pas l'ancien président turkmène, Saparmirat Niyazwo, qui avait déjà placé la barre très haut en termes de n'importe quoi en se faisant ériger une statue en or de 80 mètres de haut qui tourne avec le soleil, mais son successeur, alors Gurbanguly Berdimuhamedow. C'est comme ça que je le dis, en tout cas.
Bravo,
un autocrate dont la principale préoccupation semble avoir été d'apparaître comme aussi cinglé que son illustre prédécesseur. D'après vous, comment y est-il parvenu ? En faisant construire lui aussi sa statue géante en or, mais cette fois-ci à l'effigie de son chien. En faisant réimprimer tous les billets de banque du pays à l'effigie de son chien.
Non,
ou en
non.
retirant le droit de vote aux femmes, mais en le donnant au chien.
C'est.
Oh.
Je suis un peu chaud là-dessus.
A et B.
A et B. Mais pourquoi deux réponses, Manon?
Je sais pas.
Dommage, vous étiez sur un sans faute. Ce n'était que la réponse A. Il n'est pas si fou que ça. Inspecteur de l'UNESCO, rendez-vous vite à Ashgabat. Il y a urgence à classer cette statue patrimoine de l'humanité à un berger à la baille, la race préférée du président, de 6 mètres de haut, en or, donc, sur un très joli piédestal en béton comprenant, comble du chic, un écran géant sur lequel défilent des vidéos du chien en train de gambader. Un avant-goût amer de ce qui nous attend si un jour Hélène Gâteau arrivait au pouvoir. Mais le populisme, ce n'est pas que des statues et des palais, c'est aussi des punchlines. Je vous passe les plus belles saillies d'Éric Zemmour, de Gilles Evans et Javier Milei pour vous offrir une de mes préférées, Manon Quentin. Quelle éminent populiste a dit « Si vous votez pour nous, votre femme aura de plus gros seins et vous augmenterez vos chances d'acquérir un jour une BMW M3 ». S'agit-il de Jair Bolsonaro, le seul, l'unique, l'inimitable, de Javier Milei ou de Boris Johnson?
C.
Oh non, c'est pas Johnson. B.
Un peu de respect pour Bojo quand même, enfin.
C'est lui.
C'est lui. Il parlait quand même d'un ancien premier ministre anglais.
Oui, bon, c'est lui alors.
C'est une bonne réponse de Quentin. Oui, oui. Welcome Bojo. C'était pour les élections municipales en 2001 et guess what? Il a été élu. Encore une défaite du bon goût, mais une victoire de Manon Mariani.
Une remontada.
Une remontada venue de nulle part.
Eh oui.
Ah oui, mais
comme quoi?
J'ai marqué aucun point.
Forcément, je ne peux pas gagner.
C'est une remontada.
Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni, dont Cyril like chaque publication Insta. La France peut-elle échapper à la vague populiste qui s'abat sur une partie du monde? L'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Patrice Spinozzi, est toujours avec nous pour son livre « Menace sur l'état de droit, comment préserver nos démocraties ?» Et cette menace, Patrice, c'est donc le populisme. Vous imaginez les conséquences de l'arrivée au pouvoir d'un ou d'une populiste en France? Ça aurait plusieurs conséquences. Mais déjà, est-ce que ça serait les mêmes conséquences si c'était un populisme de gauche ou un populisme de droite?
Alors non, ça ne serait pas exactement les mêmes conséquences, mais on se retrouverait dans la même situation, c'est-à-dire que dans les deux cas, il y aurait une volonté de la part des pouvoirs en place de limiter les oppositions. C'est-à-dire que l'opposition n'aurait pas vocation à avoir droit de cité, et c'est cette idée, pas de liberté, en réalité, reconnue à ceux qui s'opposent à la volonté du peuple. Donc, on voit bien qu'il y aurait un détournement, très certainement, de la législation qui existent d'ores et déjà, en particulier les législations qui permettent la surveillance et la répression de certaines personnes qui pourraient être instrumentalisées pour surveiller ou réprimer des opposants qui sont des opposants politiques. Alors, des exemples qui sont des exemples très concrets. Il y a une grande interrogation en ce moment sur la vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire que la possibilité d'avoir dans l'espace public des caméras intelligentes. Donc, grosso modo, c'est la mécanique de Big Brother, c'est-à-dire qu'on peut vous retrouver et savoir qui vous êtes. Bon, aujourd'hui, ça n'a vocation à être utilisé que contre, évidemment, des terroristes. Et demain, toute la question va être de savoir qui va être déterminé comme étant le terroriste dans un gouvernement populiste. Et le terroriste, c'est celui qui s'oppose en réalité à la volonté potentiellement du peuple. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis, par exemple, où il y a bien déjà une instrumentalisation de la législation pour, de façon totalement volontaire, restreindre la liberté de ceux qui s'opposent à Donald Trump.
Et concrètement, quelles sont leurs méthodes communes à tous ces populistes qui essaient de se faire élire ou qui ont été élus pour se faire aimer autant d'un peuple?
Alors, l'idée, d'abord, moi je comprends, parce qu'il y a, là on est en train de dénigrer beaucoup en réalité ce qu'est la pensée populiste. Il y a toujours, face au populisme, une réalité, c'est que si les gens votent pour des leaders populistes, c'est parce qu'ils sont insatisfaits. Et donc il y a énormément de gens, et potentiellement beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se disent, mais en fait, nous là, on est précisément des élites, on est en train de se goberger sur ces questions de populistes, mais en fait, nous, sur ce plateau, on ne sait pas ce que c'est la réalité des conditions de la vie. Et c'est vrai, en fait. Aujourd'hui, la vie est devenue extrêmement difficile et il y a énormément de gens qui en ont marre. Il y a des gens qui en ont marre parce qu'ils considèrent qu'il y a un problème avec l'insécurité. Il y a des gens qui en ont marre parce qu'ils considèrent qu'il y a un problème avec l'immigration. Oui. Et en fait, ils n'ont plus l'impression d'être représentés. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, mais en fait, les gens qui sont là au pouvoir, ils sont là depuis des années, ils n'ont jamais rien fait. Et donc, il y a d'autres personnes qui disent, mais moi, je vais vous aider. Moi, je vais proposer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait. Ces gens-là, ils sont nécessairement séduisants parce que les gens ont envie d'autre chose. Moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est à ces gens qui sont prêts à voter pour ces gens-là, je leur dis, moi, je comprends, évidemment, mais sachez une chose, c'est qu'en réalité, ce que vous proposent ces partis populistes, ce que vous propose aujourd'hui le RN, ce que vous propose aujourd'hui LFI, c'est une réduction de vos libertés. À un moment ou à un autre, ça vous touchera. Vous ne vous en rendez pas compte, vous ne le pensez pas, mais vous prenez un risque pour votre démocratie.
Dans la rue, on m'a pas mal parlé de LFI dans le micro-trottoir. Vous dites que le risque de l'arrivée de la gauche populiste au pouvoir en France serait qu'elle retirerait à l'État le monopole de l'exercice de la violence légitime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, ça veut dire qu'il y a un discours aujourd'hui de LFI qui tente à considérer qu'à partir du moment où vous avez une action qui est une action violente, mais qu'elle est motivée par une nécessité politique, eh bien, elle est légitime. Donc, c'est l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une désobéissance civile et selon laquelle la violence, lorsqu'elle est exprimée, elle peut répondre à une forme de légitimité. Le monopole de la violence dans une démocratie, il est exercé uniquement par l'État. Et on ne peut pas avoir de la violence privée, quelle que soit la légitimité de cette violence. Et puis, on parlait tout à l'heure de leaders qui sont des leaders qui sont très, très, très marqués par eux-mêmes. Il y a aussi un risque, en réalité, si on parle de Jean-Luc Mélenchon, bah, d'une prise de pouvoir avec un refus de la contestation. On a vu que, très souvent, il y a une incarnation forte du pouvoir autour de Jean-Luc Mélenchon, et qu'il y a un risque d'accaparer ce pouvoir pour refuser toute contradiction qui pourrait porter atteinte à sa volonté.
Jusqu'à l'article 16 de la Constitution ?
Alors, ça fait partie des risques qui sont les risques institutionnels. Là, on dépasse la question de Jean-Luc Mélenchon. On parle d'un président de la République, quel qu'il soit de droite ou de gauche, qui voudrait instrumentaliser notre Constitution. Il y a effectivement, dans notre Constitution, un texte qui s'appelle l'article 16, qui permet à un président de la République de décider de s'octroyer des pouvoirs exceptionnels face à une menace, qui est une menace particulière, et ça pourrait être une forme de coup d'État, en réalité, présidentiel. Donc c'est un risque qui existe, ou en tout cas, qui pourrait se donner l'apparence d'une forme de légalité juridique. Et il faut bien se souvenir de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'appelle les démocraties libérales, il y a toujours ce besoin de s'appuyer sur une apparence de légitimité démocratique et une forme de respect de l'État de droit, alors qu'en réalité, c'est cet État de droit qui est dévitalisé par ces hommes politiques.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Beppe Grillo. Il a 76 ans, il est italien et c'est l'incarnation même du populisme à l'italienne. Il se fait connaître dans les années 80 pour ses apparitions sur les plateaux télé italiens. Il fait rire avec ses sketchs satiriques. Il va même jusqu'à s'attaquer au Parti Socialiste, très populaire à l'époque, qu'il accuse de corruption. Ses apparitions sont de plus en plus politiques. En 1986, il fait la blague de trop en traitant les Chinois de voleurs. Résultat, Beppe Grillo est banni de la télévision publique pour ses attaques trop frontales, mais il s'en moque. En 2005, il lance un blog qui devient l'un des plus lus au monde. Il y parle de démocratie directe, de référendum d'environnement et de justice citoyenne. Il invente un ton nouveau entre colère et ironie et s'appelait à une certaine tranche de l'Italie qui en a marre de son président du conseil, Silvio Berlusconi. En 2007, il passe à l'action. Il organise un événement à Bologne appelé le Vaffanculo Day pour inviter les politiciens à aller se faire foutre. Un énorme meeting avec plus de 100 000 personnes qui le convainc de se lancer en politique. Deux ans plus tard, il fonde donc le mouvement 5 étoiles, un parti populiste qui se veut ni de droite ni de gauche, mais du côté des citoyens. Le M5S, c'est la promesse d'un État géré comme une plateforme traditionnelle, citoyenne, pardon, pas de leader traditionnel. Beppe Grillo, il prône le rejet des partis, des journalistes, de l'Europe technocratique, des experts. Tout ça sous fond de méfiance généralisée, c'est en tout cas ce qu'il dit. Et ça fonctionne. En 2013, son mouvement entre massivement au Parlement. En 2018, il devient la première force politique d'Italie et gouverne avec la Ligue, un autre parti populiste. Mais cette réussite a un revers. Beppe Grillo, qui refusait de se présenter à une élection, garde un rôle central presque mystique. Son ton provocateur, ses sorties jugées sexistes, parfois complotistes, et sa gouvernance opaque créent des fractures interne. Certains le considèrent comme un visionnaire, d'autres comme un gourou imprévisible. Ça peut nous rappeler certaines personnes. Petit à petit, Beppe Grillo prend ses distances. Il laisse la gestion quotidienne à d'autres figures du mouvement comme Luigi Di Maio. Mais il reste l'ombre tutélaire du M5S, toujours prompt à intervenir quand il le juge nécessaire.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Pas facile de noter tout ce qui se dit dans cette émission quand on est enchaîné à un radiateur en régie. Mais voilà, c'était le blâme que Cyril lui avait infligé suite à son insolence ce matin quand il avait osé demander s'il pourrait être en télétravail vendredi. C'est donc les poignets rougis par la marque des menottes et avec une expérience directe des dérives du populisme que Pierre Courade va maintenant nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono. Pierre, c'est à vous.
Rennes vous dit que c'était déplaisant, Mathieu. Contrairement au populisme, qui n'est pas une expérience qu'on nous souhaite mais qui se rapproche dangereusement de nous, à en croire notre invité, l'avocat au Conseil d'État, Patrice Spinozzi. Le populisme, c'est une instrumentalisation de la volonté supposée du peuple contre les élites. Il peut donc être de droite. Dans ce cas, le populisme proteste contre l'élite politique, mais aussi de gauche. Dans ce cas, le populisme s'attaque à l'élite économique. Leur point commun, c'est la mise à mal de l'état de droit et la mise en place d'une démocratie illibérale, c'est-à-dire la tyrannie de la majorité élue qui cherche à se maintenir au pouvoir en éliminant toute forme de contradiction. C'est l'autorité qui fait loi. C'est ce qu'on vit en Hongrie, aux États-Unis ou dans le groupe WhatsApp de Zoom Zoom Zen. Dans un état dirigé par un populiste, toute opposition est surveillée, voire opprimée. La justice et les médias qui peuvent jouer le rôle de garde-fous sont bâillonnés, les minorités sont privées de droits, les étrangers et les personnes LGBTQIA+, en premier lieu. Plus étonnant, Patrice Spinozzi nous a appris que le populisme pouvait aussi venir du centre. Il parle de populisme de lâcheté ou d'opportunisme, même dans le gouvernement Macron, lorsque des ministres du champ républicain sont perméables aux discours d'extrême droite. Pour le contrer, il faut donc raffermir notre démocratie en votant, arrêter de critiquer la justice, mieux garantir la liberté de la presse, et ainsi peut-être nous échapperons à l'international du populisme.
Merci Pierre Maître. Est-ce que Pierre a respecté votre pensée ou bien on le remenote ?
Non, non, il a été très bien et je suis entièrement d'accord évidemment avec ce résumé. Un mot, pour garantir aujourd'hui, se garantir contre la menace populiste, il faut aussi raffermir nos juridictions. Hein. C'est-à-dire que les juges sont les premières victimes en général des populistes et ce d'autant plus qu'il y a aujourd'hui un terreau en France assez fort contre les juges. Il faut bien comprendre que les juges sont là pour garantir la liberté des citoyens et certainement pas pour essayer de la limiter. Et donc, il faut aussi que nos juridictions puissent être indépendantes. C'est le premier gardien de l'état de droit.
Menace sur l'état de droit, c'est votre livre, Patrice Spinozzi. Marine Leonardi, vous avez très peur du populisme.
Bah, disons que le populisme, c'est un peu comme le air fryer. Personne ne sait si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Air fryer, Mathieu, c'est le truc qu'utilisent les pauvres pour cuisiner. Il s'agit donc d'une doctrine, le populisme, hein, pas le air fryer, qui oppose le peuple aux élites, en d'autres mots, RTL à France Inter. Tout pour faire plaisir à Cyril, à qui je rappelle en attendant que je n'ai ni le salaire de Ruquier, ni de Salamé.
Pas en problème.
Voilà. mais cela nous interroge. Le peuple, c'est qui ? Purée, je commence à faire des chroniques intelligentes. Pour Mélenchon, ce sont tous ceux qui sont d'accord avec lui et qui sont moins riches que lui, soit l'intégralité des personnes autour de cette table. Oui, Mathieu, ne me regarde pas comme ça, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Hein. Pour la droite, ce sont tous ceux qui écoutent Vianney et mettent des chapeaux à un mariage. Pierre Courade. Et pour Macron, bah, le peuple, c'est lui-même quand il met une doudoune Patagonia. Bah, Macron, tu peux pas le taxer de populiste, parce que tu sens que le peuple, ça l'emmerde quand même. Hein. Il nous trouve un peu con, le Macron. On sent qu'il préfère aller au G7 qu'au G20 au bout de la rue. On dirait un peu ton mec hein, qui fait genre, il a compris tes émotions, histoire qu'il puisse te ken sans embout dans les 12 prochaines heures. Attends chérie, mais j'ai jamais dit que t'étais tendue à cause de tes règles. Et tu les as du coup ou pas ? C'est du vécu. Et en même temps, tu peux pas lui en vouloir à Macron, quiconque a comme moi une douzaine d'oncles qui trouvent qu'Hanouna est du pack des conneries, c'est que tout le monde en France n'a pas réussi sa JAPD. Soyons honnêtes, le succès du populisme, c'est aussi parce qu'on est crevé, on comprend plus rien à la politique. Il y a 5 élections par an, des mots comme intercommunalité ou réarmement démographique qui donnent envie de crever. Donc quand un leader politique te dit les vrais gens, ce sont ceux qui écoutent Michel Sardou, t'es là, bah, allez, tu ressors ton pull BDE avec Cyril et tu vas mettre une petite pédé à Bayoula. Et de toute façon, ce sera pas la première fois que je me serai allongée pour plaire à un vieil homme blanc. Mais à droite, on a compris que le mot populiste est trop négativement connoté. Donc Marine Le Pen lui préfère désormais le terme de patriote. Attends, mais elle va vraiment nous pourrir tous les mots sympas du dictionnaire. Mais c'est vrai, ils nous ont pris immigrés, marseillais, patriote, le drapeau français. Aujourd'hui, tu dis je suis patriote déguisé en Marianne, t'as un an d'entrée gratuite au Puy du Fou. Enfin, c'est l'enfer. Hein, le populisme version RN, ce sont des mecs qui ont de l'argent, ambiance doudoune sans manche, cheveux gominés, VTT électrique le dimanche. ma belle famille, et qui explique à des teubés du PMU qui font du scout sur la roue arrière que le problème, c'est la sauce samouraï. Voilà. Alors, commencez pas à me taxer de bourgeoise, c'est 80% de mes cousins. Je sais de quoi je parle. Je peux te dire qu'ils ont beau être sur une moto, ils ralentissent l'équipe. À gauche, le populisme, c'est pas mieux. Mélenchon a quand même déclaré en 2022 que le suffrage universel ne suffirait pas à faire passer ses idées. Non, mais c'est quand même beau d'admettre que tes idées sont tellement cons que personne ne va voter pour. Du coup, il proposait à l'époque de forcer les institutions. Mélenchon, c'est un peu le daron façon années 80. Dès que tu l'ouvres, il t'en colle une en mode « Tu comprendras plus tard, Manon !» Et toi, t'es là. Je m'appelle Marine, papa. Mais le peuple adore le populisme parce que ça donne l'impression que les problèmes sont simplifiés. C'est ce que vous expliquez. C'est pour ça que plein de pays tombent dans le panneau comme les États-Unis. Je vais virer tous les fonctionnaires qui servent à rien. Je peux te dire que ça riait jaune chez Radio France. Heureusement qu'il sait pas, Trump, qu'on a trois rédacteurs en chef chez Zoom Zoom Zoom. Et quelques mois plus tard, ils sont 60% d'Américains à regretter leur vote. Et oui, il faut se méfier de celles et ceux qui promettent de tout simplifier et qui ont simplifié la démocratie jusqu'à en faire un meuble Ikea, beau en photo, mais bancal dans la réalité.
Merci Marine Lénardi pour cette chronique qui dénonce. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et bien sûr dans tous les Zéniths de France et de Navarre en 2027 pour la grande tournée. Merci Patrice Pinozzi de nous avoir rappelé les fondamentaux du populisme, gangrène de notre belle démocratie. Je rappelle votre livre « Menace sur l'état de droit », c'est chez Alary Éditions. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci de votre invitation. Zoom Zoom Zen.